M.
M, le magazine du Monde présente Le goût de M, un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Cette semaine, ça commence comme une mélodie entêtante, une histoire d'amour et de mort, de perte, ce qui a disparu à jamais et ne reviendra pas, un bateau qui disparaît au large de l'Atlantique. Où es-tu, Manu Manureva ? C'est avec ce titre, dont il a signé la musique, paroles Serge Gainsbourg, et portant donc le nom du bateau d'Alain Colas, un marin disparu en mer au cours de la route du Rhum en 1978, qu'Alain Chamfort accède au peloton de tête du hit parade l'année suivante. Avec Manureva, Alain Chamfort, jusqu'alors chanteur à minette pour Claude François, commence à trouver son son et à imposer son goût. Une pop française et synthétique, une élégance, une façon de susurrer toujours plutôt que d'affirmer. C'est le début des tubes, le paradis, la fièvre dans le sang et autres traces de toi. 30 ans plus tard et après une carrière en dents de scie, Chamfort est toujours là, il sort aujourd'hui L'impermanence, un disque qui sera, dit-il, son dernier album. Bachung chantait l'imprudence, Chamfort chante au plus près de lui l'impermanence des choses, des êtres, des sentiments, la vie qui passe et qui ne passe pas forcément comme on le souhaiterait. Un très beau disque, portrait en mouvement de son auteur et qui s'autorise même une virée en terrasse, c'est Whisky Glass avec Sébastien Tellier. Alors pour en parler, et bien sûr de son goût, de son parcours, on a sauté dans le train, on est parti le rejoindre en Normandie, non loin de Deauville. Alain Grand Prince a proposé de venir nous chercher à la gare. Ah ben le voilà, tiens.
Bonjour Alain. Bonjour. Oui, très bien. Ça va bien, enchanté. Oh, c'est bon, on est léger. Merci.
Ah. Prenez place. Ça va, t'arrives pas à fermer la porte?
Enfin, c'est galère sur galère là.
Qu'est-ce qui se passe?
C'est très lourd, hein, parce que tu l'as ouverte.
Fermer cette porte.
Tu l'as trop ouverte.
Tout va bien.
C'est bien.
Et ça fait longtemps que vous venez ici, dans cette région et tout ça?
Non, c'est pas si vieux que ça, ça date de 2018.
Ah ouais?
Oui, c'est assez récent quand même. Donc on passe la journée ensemble, c'est ça?
Oh, un tout petit bout d'après-midi.
Un petit bout d'après-midi.
Alors où est-ce qu'on est, Alain Chamfort, ici? On est chez vous, en Normandie?
Oui, oui, c'est ça. Hein.
C'est un espace qui vous ressemble, ici?
Plus ça va aller, oui. Plus avec le temps, il va me ressembler de plus en plus.
Vous le décririez comment?
C'est une maison anglo-normande, je dirais, d'origine. Un peu excentrée, qui est dans la campagne. Qui est entourée de verdure. Et qui a été modifiée après son achat pour en faire un lieu de vie plus agréable.
Et vous venez souvent ici?
Oui, quand même. Oui.
Ouais. Vous venez quoi, travailler, pour poser?
Tout, pour travailler, pour les vacances, pour vivre, tout simplement.
On s'est installé dans le salon, une grande pièce très reposante, avec beaucoup de blanc et de bois, au sol du parquet, au mur de grandes bibliothèques, en bois également. On s'est installé dans les canapés clairs, face à la grande baie vitrée qui donne sur le jardin, tout au loin, la mer. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Le goût de mon enfance? Ah, c'est une atmosphère. Est-ce que c'est un goût... C'était plutôt un environnement. Moi, c'est ça qui me revient en premier lieu. Des odeurs, éventuellement.
Lesquelles?
Des odeurs de petit déjeuner, des odeurs de savon, la poudre de riz de ma maman, les odeurs du cou de mon père.
Vous, vous avez grandi jusqu'à 4 ans à Clichy ?
Oui, exactement.
Ouais.
Et après, voilà, mes parents se sont installés à Enghien, dans une maison que mon père a en partie aidé à la construction.
À quoi elle ressemblait, cette maison ?
Alors, je me souviens, parce qu'on avait été assisté à sa construction, donc elle était en parpaing, et puis après, ils avaient placé un revêtement dessus qui était fait de pierre, enfin c'était des cailloux projetés dans du ciment, et ça faisait des espèces de plaques qui ont été posées comme ça. Elles étaient recouvertes comme des pierres un peu toutes les couleurs. Toutes les maisons étaient du même aspect, parce qu'elles faisaient partie d'une petite résidence, quoi. Donc, mes parents avaient dû récupérer les meubles qui leur servaient de décoration à Clichy, à la maison précédente. Et puis après, ils ont acheté des meubles plus modernes. Et ils avaient un certain goût, hein, malgré leurs origines simples. Enfin, ma mère était assez... elle avait des origines un peu plus bourgeoises que mon père, et donc elle avait un œil. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais c'était arrangé pour que la maison soit agréable aussi, avec assez harmonieux. Sinon, moi, j'avais ma chambre, dans un premier temps, qui était dans le salon, parce que la maison était constituée de deux chambres. Donc, il y avait la chambre de mes parents et la chambre de ma sœur aînée. Et moi, je dormais dans mon lit, qui était dans le salon, avec un cosy. Voilà, et puis après, plus tard, on m'a créé une chambre dans le sous-sol.
Alors, votre père, lui, travaillait chez Thomson, c'est ça ?
Oui, voilà, ça s'appelait la compagnie sans fil, on appelait ça, je ne sais pas pourquoi.
La compagnie sans fil.
Oui, la CSF, ouais. Dans un premier temps.
C'est devenu Thomson après.
C'est devenu Thomson, exactement. Ouais. Et alors, c'était une société qui était spécialisée dans la fabrication de radars, de communication à l'époque.
Si vous pensez à lui et que vous pensez à ce qui l'intéressait dans la vie, à ses goûts, ou ce que vous en perceviez, vous en tout cas, quand vous étiez petit, vous diriez quoi ?
C'était un homme qui s'est fait lui-même. Il n'avait pas fait d'études, il avait passé un certificat d'études. Et puis il s'était mis dans le secteur du travail aussitôt.
Il était originaire de Bretagne, votre père ?
Il était originaire de Bretagne. Voilà, il est monté à Paris alors qu'il avait 7 ans. Mon père est né en 1912. Son père est parti à la guerre de 14. Et il est revenu en 18. Et donc quand il est parti, mon père avait 2 ans, donc il n'avait aucun souvenir de son père. Et il l'a rencontré pour la première fois à son retour de guerre, et il avait 6 ans. Et après guerre, ses parents donc sont montés à Paris. Ma grand-mère faisait des ménages, enfin elle était bonne à l'époque, on appelait une bonne, comme bécassine. Et mon grand-père il allumait les becs de gaz. Voilà, mon père était élevé à Aubervilliers, dans un endroit où il n'y avait pas l'eau courante, où les toilettes étaient dans la cour, enfin, etc. Donc c'était un homme, je dirais, d'origine très simple.
Milieu ouvrier.
Ouvrier. Ouais. Il a été marié une première fois, il avait un enfant, et il a rencontré ma mère.
Sur son lieu de travail, c'est ça.
Sur son lieu de travail. Ouais, ouais. Et il est tombé très amoureux d'elle, et donc...
Il avait des passions, ou il avait des choses qui l'intéressaient ou pas.
J'ai pas un grand souvenir de ça. Ma mère lui reprochait beaucoup de choses, notamment de pas être bricoleur.
Ouais.
Il était pas sportif non plus, mais il faisait de son mieux. Il n'avait pas été éduqué comme ça. Il n'avait pas eu lui-même, j'imagine, son père n'étant pas bricoleur, lui avait aucune raison de l'être et pas plus que je ne le suis devenu, quoi. On se transmet les choses comme on peut. Il était disponible aux autres, en tout cas. Il était toujours prêt à donner un coup de main quand les gens avaient besoin de lui. Ouais. C'est quelqu'un qui a passé du temps à essayer de s'améliorer. Quoi. Ouais. Voilà.
Et votre mère, vous disiez, elle, d'un milieu un peu plus bourgeois ?
Du côté de son papa, parce que sa mère, qui a divorcé assez jeune, a abandonné ses deux filles, ma mère et sa propre sœur, et les a placées dans un pensionnat de religieuses. Ma mère devait avoir 5-6 ans, et jusqu'à leur majorité, qui à l'époque était 21 ans, quoi. Donc elle a été élevée par des bonnes sœurs plus que par sa mère. On leur donnait des cours de cuisine, des cours de broderie, de couture. Donc elle savait un peu tout faire, quoi. Elle avait quand même un savoir-faire. Et puis,
du côté de son père. Son père était d'origine bordelaise et d'une famille beaucoup plus bourgeoise, avec ses oncles et tout ça étaient des gens, je me souviens, il y avait, j'ai retrouvé après des traces, ils étaient dans la franc-maçonnerie, enfin, c'est des gens qui avaient déjà un niveau intellectuel beaucoup plus élevé que ceux du côté de mon père, quoi.
Et elle avait des, dans votre souvenir, des centres d'intérêt, enfin, des choses qui l'animaient?
Alors, elle était d'abord très obsédée par l'éducation de ses enfants. Elle nous faisait, elle nous fabriquait nos vêtements. Elle faisait les pulls, elle tricotait. Elle tenait son foyer. Elle faisait la cuisine. Elle faisait les courses. Elle faisait la décoration. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait. En même temps, elle lisait. C'est quelqu'un qui avait le goût à la lecture.
Voilà. Il y avait un plaisir de manger dans votre famille, de se retrouver.
Oui, mon père était plutôt un bon mangeur, que ma mère lui reprochait régulièrement. Et elle faisait très bien la cuisine. Donc elle préparait les repas. À une époque, elle a travaillé. Un peu plus tard, quand elle sentait qu'on était quand même élevé, elle avait décidé de se remettre au travail. Et comme elle n'avait pas de formation particulière, elle a opté pour faire un petit commerce. Mais ils n'avaient pas les moyens d'acheter un magasin, donc elle faisait les marchés. Et elle s'était spécialisée dans les vêtements de jeunes enfants et de layettes. Voilà, donc, et là, je partais quelquefois avec elle quand c'était le jeudi ou le samedi, et je me levais pour faire les marchés avec elle. Sinon, elle partait toute seule, elle avait passé son permis de conduire assez tardivement, elle partait avec une estafette, et avant de partir, elle me préparait mon petit déjeuner, elle me préparait le repas du déjeuner, enfin, elle était très concernée par son rôle de mère, quoi.
Ouais, voilà. Votre bien-être, quoi.
Ouais.
M, le magazine du Monde présente Le Goût de M.
Alors, où est-ce qu'on est, Alain, ici?
La salle de musique, quoi, enfin, disons, salle où je peux travailler, où... J'ai rassemblé un petit peu tout ce qui touchait à la musique, quoi. À la fois le piano, les instruments pour enregistrer, de la littérature qui touche à...
Ah, là-bas, c'est une bibliothèque spéciale musique?
Ouais,
c'est ça. Et puis, il y a votre piano?
Il y a le piano, bien sûr, voilà, sur lequel je travaille.
Il sonne bien?
Oui. Oh,
peut t'entendre un petit peu?
Il est un peu faux, il n'a pas été accordé depuis quelques temps, mais... Je joue pas assez souvent, mais j'ai perdu beaucoup surtout, parce que je joue principalement pour écrire mes chansons, qui n'ont pas vraiment beaucoup de dextérité, et qui par ailleurs, je suis devenu un peu feignant, puis j'ai commencé à avoir un peu les doigts qui répondent plus comme avant, enfin donc voilà. Mais j'ai beaucoup de plaisir quand même à jouer, surtout quand je suis tranquille, seul, parce que j'aime bien profiter, regarder ce jardin, et puis je me laisse un peu aller, c'est comme ça que j'aime bien composer, moi, c'est-à-dire d'exprimer ce qu'on ressent sur le moment. Et vous faites un peu comme une bande-son de ce que vous ressentez, quoi. Et vous mettez, vous laissez un peu les doigts divaguer sur le clavier, et puis à un moment donné, vous êtes vous-même auditeur de ce que vous jouez. Et puis si à un moment, quelque chose vous fait ressentir un petit frisson ou quelque chose, vous vous dites, ah, qu'est-ce que c'est que ce moment? Et vous le rejouez, et vous le captez. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, quoi.
Et vous, si vous pensez à vous, ou suivant que vous vous en souveniez, hein, qu'est-ce qui vous a intéressé à vous, enfant?
C'était tout de suite la musique, moi. Très tôt, quoi, effectivement. J'apprenais, donc j'avais...
Vous avez commencé à jouer au piano très tôt?
Vers 4 ans, oui. C'était les tout débuts. Voilà, j'ai commencé à prendre des cours de piano, et après, il fallait le faire de manière assidue, avec des exercices à faire. Je faisais ma demi-heure de piano journalière.
Et donc, il y a la musique que vous appreniez, puis après, celle que vous écoutiez, ça vous a tout de suite plu? Vous avez commencé tout de suite à être curieux, justement, de musique de...
Oui, ça m'attirait, quoi, quel que soit le genre musical. D'ailleurs, quand j'écoutais Brassens, j'écoutais principalement ses mélodies. Mon oreille était beaucoup plus attirée vers les mélodies, les orchestrations, tout ça, que les textes. Je me foutais un petit peu, enfin, j'avais pas d'attirance particulière pour les textes. Et puis, petit à petit, les musiques évoluaient aussi.
Exactement.
C'est-à-dire que, voilà, moi, je me souviens que mes parents avaient acheté un transistor, je devais avoir 10-11 ans, Et quand je faisais mes devoirs, je prenais le transistor que je mettais dans ma chambre, et là j'écoutais Salut les copains, enfin toutes les, ce qui était ces émissions qui étaient à destination de la jeunesse et tout ça. Ouais. Donc l'actualité musicale, aussi bien des artistes français que des artistes internationaux.
Je crois que vous avez à peu près 12 ans quand vous découvrez Ray Charles.
Oui,
ça
oui.
Ça a été marquant, ça.
Alors ça, c'était vraiment la révélation. Mais c'était lié à plusieurs choses que j'ai réalisé plus tard. Parce qu'à chaque fois, je me disais, pourquoi What I Say a été un tel choc pour moi. Alors c'était dans un contexte, j'étais en colonie de vacances au sport d'hiver. J'avais repéré une fille que je trouvais superbe, jolie, très jolie, voilà. Et donc, j'étais tombé un peu amoureux d'elle, comme ça, très platoniquement, parce que j'étais extrêmement timide. Et il y a eu un soir de fin de colonie avec la surprise partie. Toujours, on fait une soirée un peu dansante, comme ça. Donc, et dans cette soirée est passé ce disque de Wild I Say. Et alors, je devais être dans un état émotionnel intense. Toujours est-il que ça, d'un seul coup, j'ai eu l'impression que cette chanson était pour moi. Le rythme, l'envie de bouger, l'orchestration, la façon dont ça swingait, la voix de Ray Charles. Enfin, d'un seul coup, ça a eu un impact très fort sur moi. Mais je pense qu'il y avait cette prédisposition qui était liée à mon sentiment à l'égard de cette fille, quoi.
Ouais.
Tout se mélangeait, quoi.
Ouais, ça a convergé.
Oui, ça a convergé.
En tout cas, ça vous a marqué, quoi, la découverte de Ray Charles, et après tout un pan de la musique noire américaine aussi.
Oui, voilà, c'est-à-dire que j'étais certainement très sensible au rythme, et ça n'a fait qu'accentuer cet intérêt qui était vraiment physique, quoi, qui parlait directement au corps. J'étais un peu emprunté dans mon physique, moi. J'étais pas quelqu'un de très à l'aise, que je me sentais grand, un peu maigre, etc.
Vous étiez timide aussi?
Oui, j'étais un garçon plutôt timide, un peu introverti, et donc pas très à l'aise, manière générale, et encore moins l'été sur les plages. Mais la danse me décomplexait. C'est bizarre, quand j'avais appris à danser le twist lors d'un baptême de ma filleule, que j'étais parrain très tôt, à 12 ans, et il y avait les sœurs de la maman de ma filleule, qui étaient en pleine, elles devaient avoir 25 ans, etc. Donc c'était des filles qui sortaient, et elles avaient déjà les mouvements de bebop, c'est-à-dire danser à deux, et puis le twist, et puis le Madison, et tout, elles m'ont appris à danser. Et là, moi, j'étais super fier de pouvoir danser dans les surprise parties, de montrer mon niveau de compétence dans ce domaine. Et ça me permettait de me valoriser.
Et c'est ça que vous avez beaucoup aimé après chez certains performeurs. Enfin, je pense au premier concert que vous avez vu. Alors, je sais qu'il y a eu Gilbert Bécaud, puis James Brown qui a été très marquant.
Ah, James Brown, c'est le summum, évidemment, de la maîtrise du mouvement, de la chorégraphie, de la pulsion, très bestial comme ça, et extrêmement communicatif, quoi.
Ouais.
C'était incroyable la façon dont il projetait ça dans la salle.
Oui, ça, vous avez vu à l'adolescence, 16-17 ans, quand vous l'avez vu.
Oui, c'est un peu plus tard, ça.
Ouais,
même plus tard que ça, ça va être à mon avis, c'était en 1967.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
Donc, j'avais 18 ans.
Et entre-temps, vous continuez le piano, puis vous aviez un orgue, donc vous aviez commencé à jouer dans des formations, dans des groupes.
Ah oui, totalement. Oui. Oh là là, j'avais réussi à convaincre mes parents de m'acheter un orgue, parce que j'avais compris que l'orgue, c'était une sonorité moderne qui ajoutait une valeur au groupe de scène, au groupe qui était constitué principalement de guitares. Et quand d'un seul coup, il y a des premiers groupes qui ont proposé un orgue qui venait s'adjoindre au reste de la formation, je me suis dit, ça c'est possible pour moi, parce que je jouais du piano, donc ce serait une manière de pouvoir aussi être sur une scène avec des groupes comme ça. Donc au bout d'un certain temps, mon père a craqué, mais on était chez Paul Boucher, et on a acheté ce petit orgue. Et très vite, me proposer mes services à des groupes qui étaient totalement heureux de pouvoir bénéficier de cet apport sonore. Donc, et je me suis retrouvé finalement accompagné du tronc à la suite des petits groupes que j'ai montés.
Sur Et Moi et Moi et Moi, en fait.
Surtout. Ouais, j'aime les filles
ensuite,
partout.
La tournée,
partout
Du tronc, c'est quelqu'un qui vous plaisait, en fait, comme qu'il incarnait.
C'était formidable, quoi. Il nous entraînait partout avec lui parce que il se sentait plus en confiance avec nous. Il arrivait avec sa bande, quoi. Donc, on avait le droit de partager sa vie, quoi. On le suivait partout, dans les émissions de télé, la radio, quand il faisait des photos. Il nous emmenait en vacances. Et puis, on faisait beaucoup, beaucoup de concerts.
Et ça, c'était attirant, j'imagine, forcément.
Pour un gosse de cet âge-là, et qui avait eu une vie extrêmement rangée, simple et sage, D'un seul coup, il y avait tous les démons qui se mettaient en route, là, et qui étaient extrêmement attirants, effectivement.
Vous parliez du Tron, là, qui était une météorite, là, dans les fin des années 60. Bon, il y en a une autre, après, que vous allez fréquenter. Vous allez vous remettre à chanter, d'ailleurs, en le fréquentant. C'est Claude François.
Ah ben oui, bien ouais. sûr. Quelques années plus tard, c'était en 70.
Ouais.
Où j'avais donc pris la décision de devenir un compositeur de chansons. Et donc, j'ai commencé à écrire mes premières chansons. Il fallait trouver des gens pour les chanter, à l'époque. Et il y avait beaucoup d'interprètes qui n'écrivaient pas eux-mêmes et qui étaient en quête de chansons nouvelles à enregistrer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est allé vers Claude François et qui nous a engagés dans sa maison d'édition pour travailler chez lui. Voilà, il nous a mis un petit studio à disposition dans son hôtel particulier de boulevard Exelmans, qui étaient ses bureaux.
Les disques flèches, oui.
Les disques flèches, voilà. Et on a Michel Pellet et moi, Michel Pellet qui est un transfuge de l'orchestre du Tron aussi, qui était le batteur. On a écrit un certain nombre de chansons et, voilà, et on a fait écouter à Claude jusqu'au moment où il m'a dit ça serait bien que tu les chantes toi-même. Je voyais un type qui générait beaucoup de succès, beaucoup d'hystérie autour de lui, et ça me paraissait extrêmement excitant de la vie qu'il avait, quoi. Donc, ouais. Je me suis dit, peut-être que grâce à lui, j'aurai un peu la même vie, je sais pas. Donc, j'ai accepté de nouveau de chanter. Et puis, le succès est arrivé, évidemment, grâce à lui.
Hein. Son répertoire, on pourrait dire un peu miné aujourd'hui.
Ah enfin, oui, totalement.
Vous allez mettre des années après à vous en dégager, en fait.
Oui, finalement. Oui.
Parce que ça ne vous ressemblait pas tellement.
Disons que c'est comme moi qui écrivais les chansons quand même. Donc, je ne peux pas dire que ça ne me ressemblait pas. Mais il y avait toute une partie, un aspect de ce que j'étais qui ne pouvait pas être exprimé dans ces chansons. C'était limitatif, quoi. C'était un peu... Et donc, le désir d'exprimer davantage de musicalité, etc., s'est fait ressentir assez vite. Et il fallait que je m'écarte de l'influence de Claude pour pouvoir peut-être toucher à cette possibilité-là.
Ouais.
Donc, j'ai attendu la fin de contrat et ça m'a permis d'aller rejoindre une autre maison de disques qui m'a autorisé à devenir ce que je cherchais à être, quoi, et sans savoir où j'allais d'ailleurs. Mais enfin, bon.
Une autre étape qui est très importante, effectivement, c'est ensuite quand vous collaborez avec Serge Gainsbourg, vous allez avoir vos plus gros tubes, enfin, y a Manu Reva évidemment.
Oui.
Ça change quelque chose en fait à partir de Manu Reva dans votre parcours ?
Ah, oui, ça change quelque chose parce que ça a permis de prouver. Autre chose que cette période qui me lie à Claude, et de revenir avec quelque chose qui était beaucoup plus inscrit dans l'époque autre. C'était le début des années 80, avec la naissance de la French pop, enfin je ne sais pas ce qu'on appelait ça après.
Oui,
la New Wave, etc.
Ouais,
mais qui était vraiment un courant qui se mettait en place et auquel j'ai fait partie.
Complètement.
Donc ça me permettait d'être considéré un peu différemment et de pouvoir espérer... profiter de ce moment-là pour aller encore au-delà, quoi. Voilà. Ouais.
Vous la qualifieriez comment, la relation que vous aviez avec Gainsbourg, en fait ?
Amicale.
Artistiquement, ouais.
Comme bien souvent, quand on collabore avec quelqu'un et qu'on passe du temps et qu'on échange avec lui, il y a des moments de questionnement, il y a des moments de rigolade, il y a des moments d'espoir, des moments de déception. Voilà, mais tout ça, c'est des choses qui se partagent et qui créent des liens. Et puis après, j'ai connu Gainsbourg triste du départ de Jen. Et donc, j'avais quelqu'un qui avait besoin de se raconter, qui cherchait du soutien autour de lui, et qui était peiné, et qui avait besoin d'exprimer son état aux gens qui étaient dans son environnement à ce moment-là. Donc, moi, je faisais partie de ces gens-là. Et après, je l'ai emmené à Los Angeles, alors qu'il avait rencontré Bambou. Donc, c'était la naissance d'un autre moment pour lui. Puis après la naissance de Gainsbourg, qui était celle-ci beaucoup moins appréciable, quoi. Et bon, malheureusement, qui n'a pas été la meilleure de sa carrière, je trouve, et qui nous a éloignés, quoi. Voilà.
Ouais, c'est le moment où vous vous éloignez. Et puis vous commencez à travailler avec un parolier, enfin d'ailleurs, qui signe encore un titre sur l'album que vous sortez là. C'est Jacques Duval.
Jacques Duval, j'ai la chance de rencontrer, qui était le parolier de Lio.
Donc il a écrit Banana Split.
Il a écrit tous les textes de Lio, Amoureux solitaire, Banana Split.
En français, l'adaptation française d'Amoureux solitaire. Ouais,
voilà. Et elle me l'a présenté à l'époque, au moment où on a arrêté de travailler, de collaborer avec Serge. Et il a écrit la première chanson pour moi qui s'appelait « Rendez-vous au paradis ». On a mis du temps à se rapprocher, à se découvrir, à s'apprécier, etc. Ça a pris un peu de temps, il était un peu réservé par rapport à moi. Et puis après, la machine s'est mise en route et on est devenus super proches, super amis. Enfin voilà, on a fait tout un répertoire que j'adore et qui a été un petit peu plus conçu, quoi. Enfin, en fonction de ce que j'étais, de ce qu'il était lui, d'une espèce de...
C'est-à-dire, oui, Alain Chamfort, en tout cas, l'enveloppe Alain Chamfort vous correspondait plus que,
ouais, bah voilà,
finalement,
ouais, voilà.
Avant, il y a eu l'époque un peu minée, si on caricature, avec Claude François. Et puis, avec Serge Gainsbourg, il avait fait de vous plutôt un séducteur, quand même. Enfin, c'est-à-dire, dans les paroles des chansons, enfin, vous êtes un homme, vous tombez les femmes. Enfin,
oui,
il y a
voilà,
plus un côté
c'est comme ça. Absolument, ouais, ouais.
Et puis là, c'est un peu plus nuancé, quoi, on va dire. Il y a plus de fragilité,
ouais.
Plus de...
Exactement.
Ouais.
Et plus juste, surtout par rapport à moi. Et là, d'un seul coup, j'ai réalisé enfin la nécessité du contenu de ce qu'on raconte, quoi. La nécessité d'être en relation véritable et juste avec les mots que vous projetez dans vos chansons.
Ouais. Vous avez beaucoup chanté sur l'amour dans votre carrière, énormément.
Oui, oui. Et pas toujours des amours réussis, d'ailleurs.
Ouais, ouais,
c'est pas
vrai.
Souvent des amours heureux. Oui, ben, ça faisait partie aussi des choix qu'on faisait avec Jacques. De prendre le contre-champ du personnage, voilà, pour qui tout est facile, du séducteur, voilà, qui n'a que l'embarras du choix. Non, là, c'est quelqu'un qui prend des râteaux, qui souffre, qui est faible, qui est lâche, qui est...
Vous en parliez comme d'un personnage de fiction, comme ça, aussi? C'est-à-dire, quand
non,
vous...
mais parce qu'on était témoin de nos vies, on voyait bien comment on était dans la vie réelle,
c'est
quoi.
Ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, et là, vous sortez un nouveau disque, en fait. Vous dites que c'est votre dernier album.
Oui, c'est ça, oui. Ce sera le dernier album, oui.
L'impermanence.
C'est un album aussi un petit peu bilan, c'est un album qui est l'expression de quelqu'un qui arrive dans la dernière partie de sa vie quand même,
ouais,
enfin, et qui essaye de s'adapter à ça et de considérer qu'il y a peut-être un moyen de la vivre aussi bien que les parties précédentes.
Ouais.
Je trouve que ça justifie le fait de faire un métier comme ça, un métier où on exprime des situations, des sentiments, et donc essayons d'être vraiment en phase avec ce qu'on ressent au moment où on les fait, ces chansons. Nous, on essaie juste de considérer nos propres valeurs, nos propres envies, nos propres... voilà, d'essayer de les faire au mieux, et puis en espérant que les gens y restent pas insensibles, c'est tout. Mais...
Ouais, c'est un disque, vous le disiez, où donc le chanteur, enfin le narrateur du disque, il affronte ce qui va être la dernière partie de sa vie, enfin, donc il parle aussi de la mort, il parle de la fin, en fait. Il y a toutes ces questions, en tout cas, qui sont amenées dans les chansons. Est-ce que vous, par exemple, vous avez été marqué par, je sais pas, le dernier album de David Bowie, par exemple, qui...
Ah, je trouve que c'est beau, ouais.
Lazarus, par exemple, c'est ces morceaux où il met en scène sa propre mort, enfin...
Ouais, je trouve que c'était... Ben, lui, il était certainement... il avait certainement connaissance de certains problèmes de santé, et il savait que c'était irréversible, et je trouve que c'était un joli geste... artistique, c'était très crépusculaire comme ça, ça m'a beaucoup bouleversé. Moi, c'était plutôt pour accompagner l'idée que, d'abord, effectivement, je pense que le point de vue que j'ai aujourd'hui, ça serait particulier, enfin, je ne vois pas pourquoi il évoluerait dans les 10 ou 15 ans qui vont suivre. Et en même temps, c'est aussi considérer que la carrière d'un album aujourd'hui, enfin du format album, est un peu décalée, quoi, par rapport à l'époque dans laquelle on se trouve. Et je m'étais dit, autant considérer qu'on va faire le dernier album, qu'on va le traiter comme tel, comme un geste artistique, et de plus en faire après. Mais ça ne veut pas dire pour autant de ne plus écrire de chansons ou de pas plus d'enregistrer sur d'autres formats, quoi. Puisque les gens aujourd'hui constituent des playlists sur les plateformes de téléchargement. Bon, on peut faire des vinyles, mais on n'est pas obligé de mettre 12 titres dessus. Moi, j'ai fait un EP dernièrement avec Sébastien Tellier. ça a été très facile, très léger, ouais. Ça prend moins de temps, ça permet de faire un espèce d'instantané comme ça, sur les 6 mois ou sur l'année que vous venez de passer, vous voyez ce que je veux dire, et ouais, pas forcément de rentrer dans des thématiques qu'oblige davantage l'album. Quoi, donc, ouais.
Et Sébastien Tellier, justement, c'est, donc là, sur l'album, il y a un titre qui est avec lui, Whisky Glass, en fait. C'est quelqu'un qui a votre goût, Sébastien Tellier, c'est quelqu'un qui vous plaît?
Il fait à la manière de ce qu'il s'est fait un peu avant. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'il réutilise des sonorités des années 80, etc. C'est sa culture et c'est ce qu'il revendique d'ailleurs. Et il le fait bien. Et puis, je trouve qu'il avait fait des jolies mélodies quand même. La ritournelle, c'est un joli morceau. Et d'autres qui me plaisent bien, quoi. J'aime bien cette espèce de légèreté, comme ça, etc. Après, c'était plus sa volonté de se rapprocher de moi et d'essayer de faire quelque chose ensemble. Et moi, ça m'a touché, ça m'a séduit. Quoi.
Expliquez-moi un peu cet album pour vous. Qu'est-ce que c'est pour vous, la permanence, cet album?
Alors, déjà, la permanence, c'est une thématique bouddhiste qui, entre autres, vous oblige à prendre conscience que tout est en transformation constamment. Tout est en mouvement, tout bouge. Rien n'est figé, donc aucun élément. La matière n'est pas figée. La matière est faite d'atomes qui sont en mouvement.
Enfin, tout bouge
ouais. tout le temps. Ouais. Contrairement aux apparences, quoi, on a l'impression que les choses sont figées, ce qui n'est pas le cas. Et donc, c'est pour tout, pour les sentiments, c'est pareil. Pour l'idée de la vie qui ne se passe pas forcément comme on souhaiterait, c'est fait partie des choses à accepter. Avoir cette idée et vivre avec cette idée et l'accepter en soi, ça vous permet d'éviter beaucoup de souffrance. Parce que rien ne vous appartient vraiment jamais, parce que tout est fait pour être transmis. J'ai été amené à m'intéresser à ça dans les années 70 parce que j'avais moi-même été intéressé par le bouddhisme, quoi. Donc j'avais entendu et appliqué cette notion-là déjà cette période-là, quoi. Et ça permet d'éviter effectivement que j'ai de la souffrance, de se préparer et d'accepter, d'accompagner les choses plutôt que vous y opposer. Et c'est la même chose pour la vie, pour la vieillesse, pour tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrer. Vous perdrez toujours. Vous serez toujours le vaincu de ça. Donc, autant s'ouvrir et faire le plus possible de lâcher prise le plus possible et de se mettre à disposition de ce qui doit arriver, quoi.
Est-ce que vous, vous avez écrit énormément de chansons, enfin, et avec d'autres évidemment, mais est-ce que vous, il y a une chanson que vous préférez de vous ou pas?
Moi, ce qui me plaît, c'est le répertoire, quoi, finalement. C'est d'avoir constitué un répertoire qui dit plein de choses différentes de moi et qui, avec le temps, je dirais débarrasser d'une certaine forme de posture pour arriver à des choses plus ouvertes, plus frontales, plus assumées, etc. Donc, et voilà, c'est l'addition de tout ça qui me rend satisfait de ce parcours, quoi. Voilà.
Le goût de M.
Alors ici, on est où, Alain, là?
C'est une pièce bibliothèque, je dirais plutôt.
Bibliothèque.
Il y a un peu de tout, je sais pas, c'est des livres que j'ai lus petit à petit dans ma vie. Alors, ils ne sont pas du tout classés. Hein. Ah, Philippe Roth, voilà, par exemple. Ah. C'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement.
Un
homme, par exemple.
Pourquoi vous l'aimez, Philippe Roth?
Parce qu'il va au fond des choses de la nature de l'homme, avec les affres du temps, les effets du temps. Il définit d'une manière très précise le déclin physique. Voilà, enfin, c'est le vieillissement, mais avec beaucoup de justesse et d'humour en plus. J'arrive à une tranche d'âge où j'aime bien qu'il exprime la période de la vie dans laquelle j'entre.
Ah, puis il y a un portrait de Saint-Laurent là-bas, ouais.
Oui, c'était bien.
Ouais. Vous me disiez, vous avez tout refait, alors vous avez tout cassé, vous avez fait une baie vitrée en plus.
J'ai considéré que le jardin était un des moments importants de cette maison, puis la vue sur la mer qu'on voit là-bas. J'ai créé cet espace qui est complètement vitré et qui permet d'être à la fois dehors en étant protégé, quoi, et d'assister au spectacle de la nature. Ah bah, c'est un autre charme, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est même, là, même c'est en cette saison-là. Quoi, c'est...
Alors, Champfort, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les objets qui vous entourent? Ils sont importants pour vous ou pas?
Moyennement. Moyennement, oui, je ne suis pas un collectionneur. Je ne suis pas un attaché. J'ai pareil, ça fait partie des choses qu'il faut...
Il faut lâcher
qu'il faut apprendre. Soit j'ai déménagé plusieurs fois et ça fait du bien de déménager parce que vous vous délestez de ce qui vous embarrasse. Alors que sur le moment, on a tendance à s'accrocher à tout ça. On a naturellement besoin de se rassurer avec ce qui vous a appartenu avant, ce qui a été vos vies précédentes, etc., et d'accumuler. Et plus le temps passe, moins je suis soucieux de disposer de choses, d'avoir besoin des choses m'appartiennent, je m'en fous un peu, quoi.
Ah ouais.
Les livres, j'aime bien, mais si on me les demande, je les prête. Et si on me les rend pas, c'est pas grave. Voilà.
Et les vêtements, vous avez quelle relation, vous, avec les vêtements?
Les vêtements? Ouais. Alors, ça, c'est né de ma maman, qui était quelqu'un d'assez soucieuse de l'apparence. Et donc, je fais attention à ma présentation, parce que je trouve que c'est une marque de respect à l'égard des autres aussi.
Une politesse aussi, oui.
Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, le dimanche, mes parents s'habillaient bien. Et je trouvais que c'était chouette de perpétuer ça, d'avoir ce sentiment de faire un effort dans la présentation qu'on a vis-à-vis des autres.
Ça me fait penser, vous aviez consacré un album concept que vous aviez sorti chez vous en privé, à Saint-Laurent, sur l'histoire et la vie.
Avec Pierre Dot déjà.
Tout à fait. Sur l'histoire et la vie de Yves Saint-Laurent, avec Pierre-Dominique Burgot. Ouais. Saint-Laurent, c'est un personnage qui vous a intéressé, ou même, et son esthétique aussi?
Alors, en le faisant, oui, en faisant le disque. Avant, évidemment, je connaissais Saint-Laurent comme tout le monde. J'étais pas très persuadé de l'intérêt que ça pouvait avoir de faire un album sur lui. J'ai lu des biographies, j'ai constaté, évidemment, l'importance de ce qu'il a donné dans sa vie, quoi. Indépendamment d'avoir une vie extrêmement riche et romanesque et créative, il a eu un impact aussi fort sur l'évolution des mentalités, etc. Ouais. Donc, il a ouvert des portes, quoi, pour la société. Quoi.
Ouais. Et esthétiquement, c'est quelque chose qui vous parlait, en fait, ou...
Alors, il était super doué, quoi. Après,
je sais pas, vous me disiez.
Moi, je suis pas forcément dans la mode, tout ça. Enfin, c'est des critères qui m'échappent un peu, quoi, mais je trouvais qu'ils avaient du goût, quoi, en tout cas. Ouais. Ils avaient du goût pour faire les choses. Pour renouveler constamment ses collections en s'appuyant sur des artistes comme Andrian, à chaque fois il a toujours su rebondir. Il était obsédé, quoi. C'était vraiment un bourreau de travail, mais un mec passionné. C'était.
Vous diriez que vous aimez quoi comme type de vêtements, vous, pour vous?
Pour moi, j'aime bien être à l'aise.
Ouais.
À l'aise dans mes vêtements, mais que cet à l'aise ne donne pas l'impression de négligence, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à la fois, vous sentir bien, parce que c'est pas coincé, mais en même temps, que ça soit agréable à regarder, quoi. Que ce soit pas une tâche, juste mettre un jogging, et où les autres sentent que vous faites pas d'effort pour eux, quoi.
Vous parlez toujours de ce respect, de la politesse pour les autres, mais pour vous, l'esthétique des choses, est-ce que c'est quelque chose qui a une importance, auquel vous avez toujours été sensible ou pas?
Écoutez, oui, certainement. C'est-à-dire que je préfère. Là, je vis dans une maison que j'ai imaginée, quoi. Voilà. Est-ce que ça dit des choses? Certainement. Mais j'ai pas été je suis pas un spécialiste de l'architecture, c'est un peu une vision assez naturelle, ça me paraît normal, d'essayer de créer autour de soi quelque chose dans lequel on se sente bien, quoi.
Vous diriez qu'au cours de votre vie, vous avez l'impression que vos goûts, ils ont beaucoup évolué, ou que vous avez toujours aimé la même chose?
Oh non, ils évoluent, heureusement. Non, je suis pas du tout ininfluençable par ce que je vois. Non, ça compte, bien sûr. Ça continue à me nourrir et d'influencer ce que je suis, quoi.
Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, par exemple?
Là, par exemple, un jardin, ça m'intéresse.
Ouais, c'est intéressant.
Mais oui, sauf que observer le jardin, avoir cette possibilité-là de voir la vie qui s'y passe, parce que qu'on ne dérange pas quand on est ici. Donc il y a un tas d'éléments qui bougent, des petits animaux qui viennent, qui circulent, il y a des écureuils, il y a un pivert, il y a pas mal d'oiseaux. Et c'est un spectacle, voilà, d'une beauté permanente, quoi. Après, les fleurs qui poussent, les volumes qui changent. Et en plus, c'est exposé nord, là. On n'est pas, le soleil, il n'est jamais là. Il n'est pas là, mais il est clair. Donc, le spectacle, il se passe devant vous, sans pour autant être ébloui, quoi.
Un mouvement constant, un permanent, enfin, c'est tout ça, quoi.
Voilà. Le jardin. Tout est à peu près cohérent, quoi. J'essaye, du moins.
Et quel type de goût vous plaît, ça? Juste que vous me disiez des mots de choses qui vous plaisent.
J'ai une tendance pour le sucre, je
sais. Ah ouais, ouais. Vous aimez quoi?
J'aime bien être doux amer, quoi, on dit. C'est-à-dire que j'aime bien, voilà, ce mélange sucré-salé, ça me plaît particulièrement. J'aime bien la douceur.
Ouais.
J'aime bien les choses tempérées, la justesse, enfin, ou la justice, ou les choses justes en tout cas. J'aime bien l'harmonie. J'aime bien l'élévation aussi, l'idée de la transcendance, enfin, d'essayer de s'améliorer tout le temps, la perfectibilité, sans jamais l'atteindre, évidemment, mais en tout cas...
Cette idée, quoi, d'essayer de faire mieux, de...
Ça, c'est des choses qui me paraissent importantes et en tout cas nécessaires, et voilà.
Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous détestez ou vous ne pensez pas comme ça?
Ah oui, bien sûr, je déteste... l'obscurantisme, des choses, des banalités, hein, évidemment, parce que, mais la violence gratuite, la bêtise, ça va être un peu prétentieux pour dire ça, mais c'est vrai que, enfin, disons, le manque de culture, je trouve ça dommage, parce que ça provoque souvent la bêtise. J'aime pas trop l'idée de rire de tout aussi, ça, j'aime pas trop ce monde qui tourne tout en dérision, tout ça, ça m'inquiète aussi, parce que ça n'apporte rien d'autre que de décrédibiliser tout. C'est facile de démonter les choses, hein. C'est vrai que c'est plus difficile de proposer, hein, des alternances.
Alain Chaffort, est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût?
Ah oui, mais j'ai des amis qui n'ont pas de goût, mais qui sont, non seulement, ils sont mes amis quand même.
Oui, c'est ça. C'est pas
une qualité indispensable pour me plaire. S'il y a du goût en plus, c'est une chose en plus à partager, qui est agréable, mais je peux vraiment aimer des gens qui n'ont pas de goût. Ils peuvent avoir tellement d'autres qualités. Oui.
Vous êtes, par exemple, déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût, c'est possible pour vous?
Là, ça touche à autre chose. Là, ça touche à autre chose, parce que pour tomber amoureux, il y a beaucoup d'éléments qui contribuent. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de vivre avec des gens dont je ne suis pas tombé passionnément amoureux tout de suite, mais qui, à force de les découvrir, m'ont laissé comprendre qu'ils avaient des choses très appréciables et voilà, qui se sont révélés avec le temps. Mais c'est vrai que l'aspect esthétique a toujours participé à attirer mon regard, quoi, quand même.
Oui. Alors, ce serait quoi pour vous, Alain Chaffort, avoir du goût?
Je pense avoir du goût, c'est ça peut être lié à l'élégance, c'est-à-dire à la fois ne pas imposer des choses qui sont pas forcément très compréhensibles par d'autres, essayer de développer de la tolérance, essayer de développer de la compréhension. C'est la politesse, le respect, l'ouverture, l'acceptation. Le fait d'accepter quelqu'un qui n'a pas de goût, c'est une preuve de goût, je trouve. Hein?
Bon, voilà.
Super.
Il y est. Ah, il y a une voiture derrière.
Non, c'est bon, c'est bon. Oui, mais on en a pour 2 secondes, ça va aller. Merci beaucoup, Alain.
De rien.
Bonne journée.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Merci, hein.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, Alain.
C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban. Le Goût de M est produit par Jean Idéal pour M, le magazine du Monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.